autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver sous le soleil exactement. En cet été de rediffusion, nous vous proposons de redécouvrir notre étoile et sa formidable énergie. L'énergie solaire, universelle et illimitée, renouvelable chaque matin. C'est grâce à elle que nous vivons, nous, comme tous ceux qui poussent sur Terre. C'est grâce à cette énergie extraterrestre si abondante, celle du soleil, sur lequel nous pouvons désormais, grâce aux cellules photovoltaïques, nous brancher directement pour produire l'électricité dont nous avons besoin. Une vraie révolution en marche, mais jusqu'où et surtout comment la faire advenir? C'est précisément ce sur quoi travaille notre invité, le chimiste engagé Daniel Linco du CNRS, pionnier et acteur majeur des sidérantes avancées du photovoltaïque. Il était invité cette année au Collège de France sur la chaire Innovation technologique Liliane Bettencourt pour partager ses recherches sur le rôle majeur de l'énergie solaire dans notre transition énergétique mondiale. C'est à cette occasion que nous l'avions reçu le 1er mars 2022, histoire de nous rappeler que le soleil brille pour tout le monde et encore plus dans les Suds. Alors pourquoi l'avons-nous oublié, négligé, déconsidéré? Sommes-nous enfin prêts à nous reconnecter à notre étoile? Autour de la question comment redécouvrir l'énergie du soleil, bienvenue ici et maintenant sur Terre.
Je suis resté qu'un enfant, j'aurais grandi trop vite. Dans un monde en super plastique, je veux retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires de Jane et de Tarzan. La citadelle, je veux devenir roi des marécages, sortir de ma cage, un Père Noël pour Cendrillon, sans escarpins. Je lis soleil, je lis soleil.
Comment remettre du soleil, justement, et de l'énergie solaire dans nos vies? Grâce à vous, Daniel Linco, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager votre recherche et votre vision forcément solaire de notre présent et de notre avenir. On en a besoin. Précisons, Daniel Linco, que vous êtes chimiste, chercheur au CNRS, pionnier vraiment de la recherche sur les cellules photovoltaïques. Vous êtes l'un des auteurs majeurs de cette révolution technologique, mais aussi sociétale. Alors, origine des innovations, notamment en termes de procédés et de matériaux, pour ces cellules photovoltaïques qui nous permettent désormais, on peut le dire comme ça, de nous brancher directement sur le soleil, sans intermédiaire, pour capter cette fabuleuse énergie, c'est ça?
Oui, tout à fait. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que le soleil nous envoie de l'énergie sous forme de rayons lumineux, et on voit très bien, dès qu'il y a un rayon de lumière, tout le monde sort, on se réchauffe, la Terre se réchauffe, même s'il a fait froid la nuit, comme on a eu ces derniers jours, dès qu'il y a quelques rayons de soleil, on se réchauffe, on revit. D'ailleurs, le soleil, c'est pas uniquement de l'énergie. C'est aussi un lien profond. Il y a des liens avec la médecine, il y a des liens avec la santé, il y a des liens avec le moral, il y a des liens avec énormément de choses. Donc je vois le soleil autrement que de l'énergie. Mais néanmoins, c'est quand même de l'énergie. Et c'est une énergie qui est très importante. Mais ce qui est particulier, c'est qu'elle est sous forme assez peu utilisable directement. Il a fallu quand même très très longtemps pour voir que le soleil, c'était une énergie qui était portée par des photons, par toutes sortes de choses. Et en fait, de trouver les analogies après entre cette énergie telle qu'on a cherché à la mesurer et celle qu'on vit tous les jours. Chacun sait qu'en énergie, on sait qu'il faut quelques litres d'essence encore pour faire 100 km. Donc on voit facilement le contenu énergétique. Mais on sait mal, par exemple, qu'une voiture électrique, elle aura besoin, par exemple, de 17 kWh. Pour faire 100 km, comment faire la correspondance entre les deux? Comment finalement arriver à percevoir cette énergie? Et ce qui est extraordinaire, c'est que à la base de cette énergie et de l'énergie photovoltaïque, on a toute l'énergie solaire. Une des premières choses qu'elle a fait, c'est utiliser le photovoltaïque naturel.
Le photovoltaïque naturel. On s'est donc inspiré de la nature pour faire des cellules photovoltaïques.
En fait, ce qui est extraordinaire, alors on s'en est inspiré, enfin on a suivi un chemin qui est proche, et c'est il n'y a pas longtemps, le découvreur de l'effet photovoltaïque, c'est Edmond Becquerel, le père de Henri Becquerel, qui a découvert de la radioactivité naturelle. Et Edmond Becquerel, il a découvert l'effet photovoltaïque à 19 ans, en 1839, au Jardin des Plantes, et il a découvert, grâce à ce qu'on appelait les débuts de l'électricité, avec, vous savez, les piles volta, ce qu'on a appelé, c'est pour ça qu'on a voltaïque, photovoltaïque, c'est grâce à Volta, Alessandro Volta, qui a découvert que, avec des tranches, en mettant des métaux et puis un peu de buvard imprégné d'acide, eh bien, on pouvait faire des piles, faire de l'électricité. Donc, la découverte de l'électricité a été à la base de tout. Et à la base de tout, dès qu'il y a eu la découverte de l'électricité, on s'est intéressé à tout ce qu'on pouvait faire avec l'électricité, et en particulier, et c'est le génie d'Edmond Becquerel, non seulement d'Edmond Becquerel, mais de toutes les personnes autour qui étaient à l'Académie des sciences, Arago, Bio, son père même, et qui ont découvert que finalement, quand on éclairait, finalement, des plaques étaient immergées dans un liquide, c'était les piles Volta. Il a découvert, grâce à un galvanomètre ultra précis, vous pouvez pas imaginer, un galvanomètre, c'est quelque chose qui mesure le courant électrique. Et il fallait des galvanomètres, il y a 30 000 tours, etc. Il a découvert que lorsqu'il éclairait une des plaques sur laquelle il avait déposé, en fait, un sel, du chlorure d'argent, c'était un sel d'argent, comme le sel de sodium, comme le sel de cuisine, il a découvert qu'en fait, ça produisait de l'électricité. Il y avait un courant. Et tout est parti de là. Il
alors
a fait
ça,
une publication.
Ça, c'est en 1839. Voilà, pour l'électricité, pour l'effet photovoltaïque.
C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on arrivait. Ça, ce qui est extraordinairement, ce qui est très, très important, c'est la première fois qu'on arrivait à convertir finalement de l'énergie qui est électromagnétique, qui est l'énergie solaire sous forme de photons, on doit ça à Einstein, en 1905, eh bien on a découvert que cette énergie pouvait se convertir en électricité. Et en fait, nous, humains, on l'a découvert en 1839.
La nature l'avait découvert avant.
Il y a pratiquement 4 milliards d'années, et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt un de vos précédents invités,
Paul Matisse,
qui racontait l'histoire des cyanobactéries.
C'est ça, et du vivant, du soleil et de la terre qui ont coévolué avec le vivant. Donc nous, on l'a découvert artificiellement. Comment ? Mais en même temps, 1839, Edmond Becquerel découvre cet effet photovoltaïque. Et en même temps, Einstein explique que l'énergie photovoltaïque, c'est transformation de la lumière portée par les photons en énergie électrique. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous sommes en 2022, Daniel Linco, et vous avez quand même très longtemps prêché un peu dans le désert, en travaillant depuis 1978, je crois, sur cette énergie photovoltaïque, sur cette énergie solaire photovoltaïque. Comment se fait-il que on soit dépendant de tellement d'autres énergies?
Tout est très long, en fait. J'ai commencé la leçon inaugurale au Collège de France par un dessin, par tout simplement un cartoon, comme on dit. Et le dessin, c'était deux personnes qui étaient dans le désert. Et au-dessus d'eux, il y avait un soleil de plomb, comme on dit. Et ils dialoguaient entre eux et ils disaient « There must be a source of energy here. » Il doit y avoir une source d'énergie ici. Et en fait, ce qui est terrible, ce qui est quelque chose aussi d'extraordinaire, c'est que sans la capacité d'adaptation que nous aurions, l'énergie, il faut pouvoir avoir les instruments, il faut déjà la convertir, c'est très long, c'est des processus technologiques, c'est des processus qui en soi sont longs. Il a fallu, alors que la nature, quand vous regardez des arbres, c'est en fait des milliards et des milliards de cellules photovoltaïques microscopiques, moléculaires, à base de chlorophylle.
C'est la chlorophylle
qui est capable d'attraper les électrons, des photons qui arrivent du soleil, et de les transformer en énergie électrique à l'intérieur de la feuille. Et cette énergie électrique va ensuite faire ce qu'on appelle une réaction de réduction, c'est la photosynthèse, où elle va prendre le CO2 de l'atmosphère, elle va prendre de l'eau, et elle va transformer ça en de l'oxygène, et de l'autre côté, elle va faire ce qu'on appelle des sucres, qui sont à la base de la vie.
Donc, ce que la nature fait, absolument naturellement, et depuis toujours, grâce au soleil, grâce à l'énergie solaire, on a commencé à comprendre dans les années 1830 comment ça se faisait. Ensuite, avec Einstein, on a réussi à mettre en lumière, c'est le cas de le dire, ces photons solaires. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Quelle révolution, quelle rupture vous permet, Daniel Lincot, notamment dans cette chaire d'innovation technologique, de dire que finalement, au cœur de notre transition énergétique, il y a le soleil? Et qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il faut qu'on redécouvre l'énergie solaire aujourd'hui?
Alors, en fait, c'est un calcul, c'est quelque chose d'extrêmement simple, c'est que en fait, je pars pour utiliser une ressource ou pour utiliser quoi que ce soit, il faut d'abord la mesurer. Il faut d'abord être capable de la mesurer, d'évaluer quelle est la quantité, quelles sont ses caractéristiques. Par exemple, l'énergie solaire, il n'y en a pas la nuit, elle a une certaine variabilité. La quantité, et il faut ensuite avoir les instruments pour convertir l'énergie solaire. On a eu la chance que la nature, avec les feuilles, nous a donné du charbon, nous a donné du pétrole, qui sont des dérivés de l'énergie solaire. Mm-hmm. Faut surtout pas oublier ça. Mm-hmm. Et donc, pour moi, la première chose, la première interrogation, regardez quand il fait beau. Vous avez le ciel bleu en plein soleil. L'énergie solaire arrive à une quantité inimaginable. C'est-à-dire qu'un kilomètre carré, un carré d'un kilomètre par un kilomètre,
de ciel bleu,
c'est l'équivalent en puissance électrique d'une tranche de centrale, qu'elle soit nucléaire ou au charbon.
Ah oui, donc c'est
donc ça veut dire qu'en fait, l'énergie solaire qui nous arrive, qui est d'origine extraterrestre quelque part, mm-hmm. donc qui échappe. Alors ça, c'est assez intéressant parce que dans la situation dans laquelle aujourd'hui, où il faut qu'on fasse très attention aux ressources, on prend conscience de la finitude du monde, de la finitude des ressources, il y a une ressource qui est quelque part qui échappe à ça. C'est l'énergie solaire. Mais il faut savoir que, par exemple, sur cette logique-là, l'énergie solaire envoie pratiquement 7000 fois plus que ce que toute l'humanité consomme. Pour vous dire, l'humanité consomme en puissance équivalente 17 TWh et l'énergie solaire, c'est autour de 7000. Enfin, c'est beaucoup plus élevé.
Donc, c'est considérable. Donc, on a toute l'énergie qu'il nous faut et même beaucoup plus illimitée, renouvelable, au-dessus de nos têtes. Ça, on l'a bien compris. Grâce maintenant à ces cellules photovoltaïques et notamment aux matériaux que vous avez développés qui permettent désormais de se brancher directement sur le soleil, de récupérer cette énergie. Mais vous avez parlé des ressources. Une des critiques qui était mise, alors il y en a plusieurs, à l'égard de l'énergie solaire, mais c'est de dire attention, pour faire ces cellules photovoltaïques, on a besoin de certains matériaux, on a besoin de terres rares. Attention, pour fabriquer ces cellules photovoltaïques, est-ce qu'on n'est pas en train d'utiliser d'autres matériaux et
Vous avez absolument raison. Je corrige ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est 120 000 terawatts. Ce qui nous arrive intercepté par la Terre, c'est 120 000 terawatts. Par rapport à 17 TWh.
Ouais, donc c'est absolument énorme.
C'est gigantesque.
La première
chose de l'équation, c'est de se dire, est-ce qu'il y a la ressource? 7000 fois oui, comme vous pourrez dire.
C'est ça, 7000
fois. La deuxième chose,
oui,
la question que vous me posez, c'est, est-ce qu'on a les moyens de la convertir? Mm-hmm. Je dirais maintenant 10 000 fois oui. Parce qu'on a inventé des systèmes, ce qu'on appelle les photopiles solaires, qui sont, que vous voyez, les photopiles bleues au silicium, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Il suffit, quand on les éclaire au soleil, le soleil, il donne... Alors, ce qui est important, c'est que l'unité de base du soleil, c'est 1000 watts par mètre carré. Imaginez 1000 watts, que vous avez 1000 watts d'éclairement. Le soleil nous envoie, en conditions qu'on appelle standard, c'est-à-dire quand on est face au soleil, il nous envoie 1000 watts par mètre carré. Aujourd'hui, les cellules au silicium de tous les jours, celles qui sont enfin redescendues sur Terre, on en reparlera peut-être après dans le processus, c'est qu'en fait, ces cellules sont capables de donner 200 watts. Et au maximum, le maximum en labo, c'est 265 watts. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut directement, sans aucune pièce tournante, sans quelque chose qui tourne, il ne faut ni chauffer ni rien.
Donc sans moteur, sans rien, sans énergie.
On sort sans énergie autre. On va convertir les 1000 watts de solaire en pratiquement 200 watts électriques utilisables pour faire tout ce qu'on veut. Et donc là, on a à la base, donc on voit qu'on a construit un instrument qui permet de convertir efficacement l'énergie solaire en électricité. La deuxième question, c'est attention, Est-ce que vous le faites à quel... On sait le faire, mais si c'est rare, si c'est cher, à quel prix,
voilà, à quel...
Alors là, pour nous, on a encore une deuxième chance. La nature nous redonne une deuxième chance. La Terre, la croûte de la Terre est constituée pratiquement à 97% de matériaux qui contiennent du silicium. Le silicium, c'est l'élément qui est dans les cellules solaires au silicium à 95%. C'est 95% aujourd'hui du silicium. Et le silicium, c'est le deuxième élément de la croûte terrestre.
Donc il est très abondant.
Il est plus qu'abondant. Vous marchez un silex, c'est pratiquement... Alors la nature ne nous l'a pas fait sous forme de silicium, où il y avait juste à prendre un petit peu. En fait, il faut qu'on travaille un peu, c'est-à-dire que la nature, le premier élément, c'est l'oxygène. Donc vous avez l'oxygène et le silicium, donc le composé qui se forme, c'est de l'oxyde de silicium, c'est du sable, c'est du quartz, c'est du silex, c'est des silicates, c'est tout ce qu'on veut.
Donc on a de quoi faire de l'énergie solaire. Il y a quand même une autre critique, puis après on va continuer dans notre réflexion. C'est évidemment lié à l'intermittence de cette énergie solaire. C'est la journée, il faut qu'il y ait du soleil. Vous avez parlé d'un coin de ciel bleu et
tout
pas d'un
fait.
Coin de ciel nuageux. Donc l'intermittence, alors déjà, c'est pas l'aléatoire, hein, l'intermittence. Mais comment on fait ?
Alors,
on n'est pas du tout habitué à des énergies intermittentes. Nous, on appuie sur le bouton et on veut que ça marche. Enfin, nous, au Nord et dans nos pays occidentaux.
Oui, tout à fait. Ça, c'est le juste un point sur la question de la première question sur l'abondance. C'est vrai qu'il y a énormément. J'ai appelé ça des légendes, des faux, des choses qui sont fausses, qui sont dites. Et je dois absolument corriger. Et si vous m'en offrez l'occasion de façon remarquable, c'est que quand on dit que le photovoltaïque est basé sur des terres rares, sur des éléments rares, et on trouve des livres célèbres de gens qui disent que le silicium est rare. Vous entendez ? Et ça, c'est des choses... souvent, dans des discussions, on dit « c'est rare ». Mais non ! Dans une cellule solaire aujourd'hui, c'est du silicium, un peu de phosphore et un petit peu de bore. On est absolument avec des choses qui ne posent pas de problème du point de vue de la ressource. Donc, si je pouvais, grâce à votre émission, faire que se corrige ce fake news, quelque part, sur la question de la rareté des éléments, ça serait vraiment un pas très important, parce que depuis de nombreuses années, très souvent, cette question apparaît. C'est vrai qu'il y a des éléments rares, plus rare, mais c'est pas des éléments. Par exemple, on utilise encore un peu de l'argent pour prendre des contacts, parce que le contact électrique à l'argent, il se corrode pas. Mais aujourd'hui, dans les laboratoires, on est en train de remplacer l'argent par du cuivre. Peut-être demain, ça sera du carbone. Donc, cette question de rareté ne se pose pas. C'est notre deuxième chance. Et la troisième dont vous parliez, c'est la question de l'intermittence. Là aussi, c'est pareil. Vous entendez, c'est une énergie diluée, c'est intermittent. Et qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de soleil la nuit, alors qu'on veut allumer son frigo ou allumer la télé ? On entend ça en permanence.
Et qu'est-ce que vous répondez ?
Mais qui est-on pour dire ça ? Nous fonctionnons nous-mêmes à l'énergie solaire. Nous, tous les vivants, on mange de l'énergie solaire dérivée. Quand vous mangez, quand votre alimentation, quand vous avez une baguette, quand vous avez du riz, quand vous avez du mil, quand vous avez... C'est de l'énergie solaire que vous avez récupérée grâce à la nature qui, elle, n'a pas inventé les photopiles directes. Elle a fait la photosynthèse et nous mangeons indirectement de l'énergie solaire. Et nous mangeons et nous acceptons sans aucun problème que le blé, bah, il pousse pas, et quand il fait pas beau, ça pousse pas. Même quand on boit du vin, des fois, il peut y avoir... Vous voyez, on oublie ce qu'on doit à l'énergie solaire. Et ça, je trouve ça dommage qu'on fasse une distinction entre... Donc la nature et nous-mêmes avons été capables de nous adapter à l'intermittence. Quand on mange... On s'est adapté à l'intermittence.
C'est-à-dire que ce que vous nous dites, Daniel Lincot, et là encore, parce que vous êtes révolutionnaire avec votre grand sourire, mine de rien, vous nous dites que c'est à nous de nous adapter à l'énergie qui nous fait vivre et à l'énergie solaire. Et ce n'est pas comme on en a pris l'habitude depuis la révolution industrielle, en gros, de faire que les énergies s'adaptent à notre consommation. Donc il faut changer radicalement. Quand même, de mode de pensée, de fonctionnement. Et c'est pour ça qu'il y a tant de résistance, d'ailleurs.
Il faut revenir à la nature. C'est-à-dire qu'on on a vécu sur des illusions. On a eu une chance inouïe. Le pétrole nous était donné. On avait un trésor sous les pieds. Je comprends bien qu'on puisse utiliser le pétrole pour faire de l'énergie, etc. Ça peut se comprendre. On n'avait pas inventé les cellules solaires, etc. Donc l'énergie est venue. Mais quelque part, c'est parce qu'on a eu beaucoup de chance. Et on a fini par tellement se persuader qu'on n'avait pas besoin de la nature. Parce qu'en fait, la révolution industrielle s'est aussi accompagnée d'une sorte de refus de la nature, de dire « Ah ben maintenant, il n'y a plus besoin d'aller s'ennuyer à attendre que le vent fasse tourner les pales du moulin pour broyer. » En fait, on a fini par devenir des enfants gâtés et oublier complètement que la nature était là et qu'il fallait la respecter et qu'il fallait s'adapter. Nous vivons aujourd'hui parce que nous avons été capables de nous adapter, parce que nos parents, nos grands-parents se sont adaptés. Et pour eux, il n'y avait pas de problème à utiliser des...
À nous encore de nous adapter, c'est étonnant parce que ici même, c'était le philosophe Souleyman Bachir Diagne qui nous disait aussi qu'on était peut-être un peu des enfants gâtés sur d'autres questions.
Oui, tout à fait.
Mais c'est pareil autour de la question comment redécouvrir l'énergie du soleil. Allez, on va essayer de s'adapter. En tout cas, on va se mettre déjà à l'écoute du soleil avec votre choix musical, Daniel Lincon, qu'on partage à 1000%. C'est Bob Marley sur RFI. The sun is shining and it shines for all. Bob Marley sur RFI qui nous rappelle que the sun is shining for all. Merci pour ce choix musical, cher Daniel Linco, autour de la question comment redécouvrir justement l'énergie du soleil, notre étoile qui brille abondamment et pour tout le monde. Vous êtes un chercheur engagé de longue date, acteur majeur des avancées extraordinaires de l'énergie solaire photovoltaïque. Vous venez d'être nommé au Collège de France sur la chaire annuelle d'innovation technologique, énergie solaire et transition énergétique. Car pour relever tous les défis énergétiques, mais aussi climatiques, sociétaux qui nous attendent, et bien pour vous, Daniel Linco, il y a cette formidable piste solaire que l'on redécouvre aujourd'hui. Alors, on l'a bien compris, le soleil dégage une énergie fabuleuse, illimitée, universelle, mais intermittente.
Tout à fait.
Et donc, pour nous, la question maintenant, c'est, on a bien compris que votre approche nous disait qu'il fallait maintenant finalement nous adapter à nos énergies, nous adapter à ce soleil qui nous fait vivre, on mange le soleil, on vit soleil, donc nous adapter à cette alternance, à cette intermittence, mais il faut aussi la stocker quand même, cette énergie. Et ça, c'est aujourd'hui peut-être un des plus gros problèmes pour cette énergie photovoltaïque.
Alors, vous m'auriez posé la question il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, ou peut-être un peu, même un peu moins, les choses changent très vite. En fait, le stockage de l'énergie solaire, je vous ai parlé, j'ai parlé tout à l'heure des plantes qui étaient une façon de stocker l'énergie solaire.
Naturelle.
Et en fait, alors qu'est-ce qui se passe dans une plante? Vous avez une cellule photovoltaïque qu'on appelle moléculaire, à base de chlorophylle, qui va en fait faire une réaction de dissociation de l'eau. Et l'eau, en fait, quand on fait passer de l'électricité dans l'eau, à l'anode, on fait de l'oxygène, et à la cathode, on fait de l'hydrogène. Donc, l'eau n'est pas inabondante. Il y a de l'eau, il y a des endroits où il y en a un peu moins, mais néanmoins, l'eau est extraordinairement abondante. Donc, ça veut dire que, quelque part, si on est capable, et c'était le rêve de Jules Verne, des gens, des anticipateurs déjà de ces périodes. Et en fait, on peut stocker l'énergie solaire en fabriquant de l'hydrogène, c'est-à-dire en refaisant un peu ce que fait encore une fois la nature, mais avec des moyens modernes.
Et aujourd'hui, on a ces moyens-là. Donc il y a des mix pour arriver à capter finalement
sûr,
et à stocker l'énergie solaire.
Bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez différents niveaux de la révolution qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est la révolution de l'hydrogène. On voit aujourd'hui que de façon extrêmement rapide se développent aujourd'hui des associations entre des éoliennes, des panneaux solaires et des électrolyseurs qui vont pouvoir produire de l'hydrogène dont on fait ce qu'on veut. On peut la reconvertir après en des produits chimiques, on peut refaire de l'électricité avec des piles à combustible. Donc ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui de façon accélérée sous nos yeux, c'est le stockage à très très grande échelle avec de l'hydrogène. Il y a même aujourd'hui de l'hydrogène qui on va pouvoir produire de l'hydrogène, la déplacer, la mettre dans etc. Donc pour moi aujourd'hui, cette association, c'est la première réponse à l'intermittence. Je dirais sur le long terme, on peut stocker de l'hydrogène comme on stocke des hydrocarbures ou du gaz, du méthane.
Donc il y a plein de pistes. Êtes des chercheurs à travers le monde. Alors vous en France, vous êtes un des pionniers. Vous avez parfois prêché dans le désert. De le dire, même si justement dans le désert il y a beaucoup de soleil. Beaucoup de chercheurs dans le monde travaillent là-dessus, un peu partout, notamment au sud évidemment, quoique les cellules photovoltaïques aujourd'hui elles soient plutôt fabriquées en Chine. Mais c'est lors d'une rencontre entre chercheurs autour du photovoltaïque que vous avez rencontré un chercheur indien qui a confié la responsabilité en fait en Inde de ces panneaux solaires pour équiper les villages, non pas aux jeunes des villages, mais aux mamans, aux mamies, aux grand-mères dans les villages indiens, les mamies aux pieds nus, les mamies solaires, qui font aujourd'hui des petits. Alors en Inde, en Afrique et jusqu'à Madagascar. La preuve avec ce reportage déniché sur le site The Great Big Story sur Internet, c'est dans le village d'Ambakivao à Madagascar avec une mamie très solaire. On l'écoute.
Je m'appelle Yolande Adrian Ambinina et je travaille sur les panneaux solaires. Je me suis portée volontaire parce que je voulais contribuer au développement du village. Nous sommes tellement fiers ici, à Ambakivao, d'avoir l'électricité maintenant. Notre bureau est ouvert tous les jours. Nous recevons des clients qui ont besoin de réparations sur leurs panneaux solaires et nous allons voir sur place. Quand c'est nécessaire, nous les enlevons du toit de leur maison et les rapportons à notre atelier pour faire les réparations. Je remarque que notre village a changé grâce à l'électricité. D'abord, on peut travailler plus tard le soir et on peut se réunir. Ensuite, nos enfants n'ont plus à vivre avec des lampes à gaz, ils vivent avec l'électricité. C'est plus lumineux, ils voient mieux et sont plus motivés à faire leurs devoirs. Et depuis qu'il y a de la lumière, on se sent plus en sécurité, on n'a pas peur. Les panneaux solaires ont illuminé notre communauté et ne nous ont apporté que du positif.
Vivent les mamies solaires de Madagascar et d'ailleurs, ce sont elles dans les villages, et ça vous inspire et ça nous inspire, Daniel Linco, qui prennent en charge alors finalement le maintien de ces panneaux solaires en bon état de marche. Et il suffit de quelques panneaux solaires pour qu'il y ait de l'électricité dans les villages. C'est extraordinaire.
Oui, oui. Un panneau de 200 watts permet l'accès avec la télévision aussi, avec la réfrigération, etc.
Pour charger les téléphones portables, si utile.
Ah oui, et ça, c'est d'ailleurs intéressant. Aujourd'hui, il y a une sorte de conjonction de choses avec le développement de l'information à très grande échelle, l'accès à Internet et tout, qui se démocratise. Eh bien, l'accès à l'énergie est très important. Et pour recharger, pour recharger des téléphones portables ou d'autres applications, on peut le faire très facilement avec des panneaux solaires, même de petites dimensions. Donc, en fait, on a quelque chose, on a une sorte de convergence aujourd'hui de choses qui ont émergé il y a quelques années, au 21e siècle, et qui convergent vers quelque chose qui pourrait être du bien. Je pensais en particulier aussi aux batteries. Je n'ai pas parlé des batteries tout à l'heure, mais il y a eu une révolution qui s'est produite. Et mes collègues de l'Académie du Collège de France qui travaillent dans le domaine sont très au courant de cette autre révolution qui est, regardez les progrès qui ont été faits avec les batteries lithium-ion. Aujourd'hui, se développe toute une industrie sur les batteries. Alors, ce n'est pas du long terme, mais ça couvre différents temps. Et aujourd'hui, vous couplez des panneaux solaires avec du stockage par batterie, vous pouvez décaler du jour à la nuit sur de l'intermittence courte de la journée. C'est-à-dire le fameux pic qu'on dit du soir en consommation. Si on a des panneaux solaires sur une toiture, ils vont recharger, même parfois par l'intermédiaire de la batterie de la voiture, ils peuvent recharger, on recharge cette batterie et on peut la réutiliser. Donc on voit qu'il y a de multiples progrès qui ont été faits et qui peuvent être mis dans le bon sens.
C'est ça, mis dans le bon sens, et je pense notamment à tous ces pays du Sud, de la bande tropicale, qui n'ont pas d'électricité et qui ont besoin d'électricité. Vous êtes pourquoi ? Parce qu'on a aussi parlé, il y a des grands projets, Desertec au Maroc. Ouais. Est-ce qu'il faut des grands projets comme ça, immenses, là où il y a du soleil ou est-ce qu'il faut des petits projets, des petites stations solaires un peu partout ? Vous êtes pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le tout en même temps, Daniel Lincoln ?
Alors, il y a une réponse qu'on dit, c'est les deux, mon capitaine.
Et c'est ça.
Hein. Exactement. C'est-à-dire que je ne jette aucun intérêt. Mon seul souci, c'est de faire en sorte qu'il y ait cette transition vers l'énergie solaire. Je pense que l'énergie solaire, c'est vraiment vers cela qu'il faut aller. Et cette transition, elle ne se fera pas en disant « Moi, je choisis que des petites installations, du solaire. Mmh. » Elle se fera avec les deux. Et en fait, avec les deux. Et regardez l'exemple, c'est que vous prenez la France, par exemple. La France, il y a environ 50 000 km² de surface artificialisée, dont nos toitures, dont vos toitures sur votre immeuble, etc. Ça représente des milliers de km².
On pourrait installer des panneaux photovoltaïques partout sur toutes les toitures.
Je suis pour qu'il y ait un grand plan citoyen pour qu'on installe des toitures de façon accélérée pour fournir d'énergie électrique. Alors, il y a beaucoup d'aujourd'hui d'associations qui se développent, énergie partagée. Je participe à par exemple Sud Paris Soleil, il y a des coopératives. On installe des toitures, c'est des toits des écoles. 100 kilowatts ont été installés sur l'école La Plaine à Cachan. Et c'est comme ça que les choses vont se faire.
En banlieue sud.
C'est-à-dire, en fait, ça...
Ça vient des citoyens, parce qu'on a quand même l'impression, Daniel Lincot, quand on vous écoute, quand on vous lit, quand on vous suit, vos cours d'ailleurs sur le Collège de France, comme votre leçon inaugurale, sont écoutables et téléchargeables gratuitement à n'importe quel moment, on a l'impression qu'il y a quand même une résistance. Parce que pourquoi est-ce qu'on n'y va pas plus vite, que ce soit dans nos pays moins ensoleillés ou dans les pays plus ensoleillés? Qu'est-ce qui coince, finalement? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, on vous répond « Non, c'est les métaux rares, non, c'est intermittent, non, c'est... » Alors que vous nous dites, en mélangeant tout ça, on pourrait avancer.
L'énergie solaire, il y a une forme psychologique de rejet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est considéré comme un truc de l'ancien temps, la bougie, retour à la bougie. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, dans nos élites, entre guillemets, je mets bien entre guillemets le terme élite, il y a une déconsidération pour une forme d'énergie qui ne soit pas... La société industrielle, c'est toujours plus chaud, toujours plus fort, toujours plus dur. Mmh. Et ça s'oppose à la nature. L'énergie solaire, elle est soft, elle est plus diluée. Elle a d'autres caractéristiques.
Il faut s'y adapter, on n'est pas les maîtres de ça.
Exactement. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'on préfère toujours une énergie très centralisée, etc., etc. Mmh. On préfère une énergie solaire qui est considérée un peu... Et puis, il faut dire une chose aussi, c'est que l'énergie solaire, elle a été beaucoup, beaucoup développée, ou elle est venue beaucoup, on disait, nucléaire non merci. Donc en fait, il y a, en particulier en France, cette opposition malheureuse, enfin, qui
nucléaire, solaire.
Entre, en fait, et on bloque. Regardez comment les Allemands aujourd'hui sont beaucoup plus offensifs sur le potentiel de l'énergie solaire, y compris en Allemagne, alors que l'Allemagne est un petit peu moins de soleil
que la France.
Regardez le Royaume-Uni, qui font mieux que nous. Regardez dans tous les pays du monde.
Alors que vous et d'autres chercheurs avec vous, dès 78, avez commencé à développer tout ça. Or aujourd'hui, c'est la Chine qui fabrique le plus de cellules photovoltaïques.
Alors heureusement, c'est grâce à la Chine.
Ah, ouais.
En fait, l'Europe a fait la recherche, les États-Unis aussi, a développé l'industrie. Et en France, il y a des politiques qui ont été très bien. La politique du Grenelle de l'environnement, avec les tarifs d'achat, avec cette volonté politique, existe en France. Je ne dis pas, vous voyez, que ça n'existe pas. Aujourd'hui, il y a un rattrapage qui est en train de se faire.
À la vitesse supérieure.
Mais quelque part, on a perdu quand même 20 ans entre 1980 et 2000, alors que heureusement, nous, on n'a pas beaucoup avancé, sauf peut-être en recherche, où les équipes de recherche sont restées de très bon niveau. Mais d'autre part, c'est-à-dire en Allemagne et tout, ils ont développé le début de l'industrie. Et ce qui s'est passé de façon étonnante, c'est qu'ils ont créé les conditions du développement industriel avec des tarifs d'achat, par exemple, qui sont un bon moyen. Mais ceux qui y ont cru le plus, c'est les Chinois.
Qui et ce sont les Chinois qui aujourd'hui fabriquent les cellules photovoltaïques. Alors je sais que vous êtes aussi, parce qu'on est vraiment dans une question d'énergie décentralisée qui s'adresse aussi beaucoup à tous les pays du Sud, et je sais que vous êtes aussi pour tout ce qui pourrait permettre d'être indépendant, autonome, notamment au Sud et sur continent africain, dans la fabrication de ces cellules photovoltaïques. Il s'agirait donc de former sur place des étudiants à ces technologies photovoltaïques. Et ça, c'est la mission que s'est donnée Haruna Darga, originaire du Burkina Faso. Ce brillant jeune chercheur que vous connaissez bien, Daniel Linco, chercheur en génie électrique et électronique à la Sorbonne et à Centrale Supélec, est expert aussi pour l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France. Et il a monté des ateliers pour former, alors d'abord en Guinée, au Sénégal et au Burkina Faso, des étudiants à la conception et à l'utilisation des cellules photovoltaïques. Je vous propose de l'écouter dans un reportage réalisé au cours d'un de ses ateliers. C'était en 2018 à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal pour construire de A à Z des systèmes d'éclairage photovoltaïque qui ont ensuite été distribués dans les villages.
Nous avons un masseur énergie renouvelable, mais il nous est paru important de renforcer la pratique au niveau des étudiants. C'est dans ce cadre-là que cet atelier a été organisé.
Nous sommes ici depuis 2 jours pour faire la conception des modules photovoltaïques jusqu'à l'éclairage.
C'est un atelier qui est vraiment très important parce que l'idée, c'est de former les jeunes à plus de pratiques, donc à la science expérimentale.
Donc, il y a une formation théorique derrière, mais aussi il y a la formation pratique pour qu'ils réalisent des panneaux photovoltaïques, mais pour des usages bien particuliers. Donc, c'est à eux de définir qu'est-ce qu'ils veulent alimenter. Et les cellules sont là. Ils vont essayer de les mettre bout à bout pour avoir les puissances qu'il faut et réaliser l'application.
Et cet atelier nous a permis d'avoir des informations supplémentaires concernant la fabrication des modules, comment sont ordonnés, comment on fait la soudure et tout ça.
Il s'agissait de réaliser des modules photovoltaïques par eux-mêmes et ça permet aux étudiants en fait de pouvoir être confrontés à la réalité en fait de la fabrication d'un module.
Dargatec est une entreprise qui travaille dans le domaine solaire, donc qui apporte de l'innovation pour réduire la consommation électrique dans les ménages. Pour cet atelier, on a eu le soutien de la Société française de physique et de la Société française d'optique via la commission Physique sans frontières qui nous ont soutenus pour faire cet atelier. Donc cet atelier est un début d'un programme que nous pensons lancer autour de l'expérimentation des sciences en Afrique.
Haruna Darga de Dargatec, donc enseignant-chercheur à la Sorbonne, est très investi dans toute l'Afrique de l'Ouest donc pour le développement sur place de ces cellules solaires photovoltaïques. On n'a pas cité les noms du professeur Diouf de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, qui était avec ses étudiants Adam Andoy, El Hadj, Adam Assek et des chercheurs donc Haruna Darga, que l'on vient d'entendre, et Amadou Maïga. C'est quand même, il y a plein de passeurs comme ça qui essayent, Daniel Linco, de rendre autonome au Sud, alors notamment en l'occurrence ici les Africains, pour fabriquer, développer leurs propres cellules photovoltaïques.
C'est extraordinaire. Si on regarde le potentiel, le gisement solaire en Afrique, c'est absolument impressionnant. C'est-à-dire que y a plus d'énergie qui arrive par le sol largement que ce qui sort en forme de pétrole chaque année. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Mali, le Sénégal, etc. C'est impressionnant. Ils ont un véritable trésor. Et je dis que finalement, on a eu une tradition de mines. Et les mines pour le solaire ne sont pas des mines qui regardent dans le sol. Ce sont des mines qui sont tournées vers le ciel.
Magnifique.
Et donc, en fait, on n'a qu'à récolter, à l'utiliser. Et cette énergie qu'on peut avoir en quantité illimitée, je voudrais dire quelque chose de très important, c'est qu'elle est illimitée, mais il faut l'utiliser utilement. Il faut utiliser cette énergie dans le futur pour réparer la Terre, pas pour la détruire plus. C'est-à-dire qu'il faut garder la question philosophique de la relation qu'on doit avoir avec l'énergie. De la même façon, il faut savoir l'économiser. J'ouvre une porte d'espoir très grande en disant que cette énergie échappe un peu aux contingences qu'on a sur les matériaux, sur etc. L'espace, il y en a tant que tant. C'est pour ça que je ne suis pas contre aussi les développements qui se font sur des grandes fermes solaires. Il peut y avoir une industrie. D'ailleurs, l'Afrique était en première loge de l'industrie solaire thermique. Il y avait toute une industrie qui avait commencé à se développer à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. D'ailleurs, regardez les chauffe-eau solaires. Il y en a partout. Le solaire, ce n'est pas que le photovoltaïque, c'est aussi le thermique, c'est l'eau chaude, c'est aussi l'éolien. L'éolien, c'est du solaire, hein, direct.
Donc, il y a de quoi faire si on utilise toute cette énergie solaire. Mais en conscience et à bon escient, hein, en faisant attention à ce qu'on fait. On va y revenir juste après avoir écouté un soleil de plomb, non, un soleil de volt. C'est signé du rappeur Balogi, rappeur congolais. Allez, on va remuer avec son soleil
ça
de volt,
hein, j'imagine. Ça va être bien.
Sur RFI et son soleil de volt, c'est pour vous. Daniel Linco, qui est titulaire cette année au Collège de France de la chaire d'innovation énergie solaire, photovoltaïque et transition énergétique. Autour de la question pourquoi et comment redécouvrir cette énergie universelle et illimitée du soleil, je propose un dernier éclairage, puisque vous parliez quasiment philosophie et sagesse du soleil. C'est celui d'une jeune philosophe, Emma Carinini, qui vient de travailler sur le soleil. Soleil, mythe, histoire et société, c'est le titre de son premier essai paru aux éditions du Pommier. Et comme tout ce qui a trait au soleil vous intéresse et peut faire avancer notre réflexion, Daniel Linco, je propose d'écouter Emma Carinini, interrogée sur la philosophie, la sagesse du soleil, par Marjorie Bertin.
Le soleil, c'est pas qu'un objet de la science, c'est aussi quelque chose qui fait partie de l'histoire des hommes, de leur société, de leurs mœurs, etc. Et ça peut même en effet être une forme de sagesse. Aujourd'hui, on prend la lumière du soleil pour une évidence, pour quelque chose qui est totalement acquis. Le soleil se lève tous les matins, il se couche tous les soirs. Et donc, on a oublié de voir cette lumière. C'est Jacqueline de Romy, la célèbre helléniste française, qui disait que les anciens, et notamment les Grecs anciens, avaient une attention émerveillée à la lumière du soleil. Tous les jours, ils la remarquaient. Et donc, on a oublié cette lumière, on ne s'émerveille plus de cette lumière du soleil. C'était un principe de sagesse très important dans l'Antiquité, notamment par exemple chez les Romains. Le philosophe stoïcien Sénèque disait qu'une vie qui n'était pas en phase avec la lumière n'avait aucun sens. On ne pouvait pas concevoir de travailler au-delà des limites de la journée. Et même, le soleil avait été, notamment au Moyen-Âge, l'objet de véritables luttes juridiques pour empêcher les maîtres d'étendre la journée de travail au-delà du coucher du soleil. Donc nous qui n'hésitons pas à parfois sortir du bureau à pas d'heure, à travailler la nuit, ça devrait nous faire réfléchir. Nietzsche disait qu'il fallait philosopher à midi. Il disait que toute personne qui voulait penser, qui voulait s'arrêter un peu pour méditer, avait besoin de trois choses. Premièrement, la grandeur. Deuxièmement, le calme. Et troisièmement, la lumière du soleil. Alors ça peut nous paraître surprenant comme ça, mais en réalité, c'est très important de dire que Le soleil va modifier notre manière de voir le monde, va modifier notre manière de réfléchir. Et quand on est dans la pleine lumière, on est comme le bâton à midi. Le bâton à midi, il n'a plus d'ombre. Autrement dit, au soleil, il n'y a pas d'hypocrisie possible. Les conventions tombent. Le soleil oblige à faire, en quelque sorte, tomber les masques. La sagesse du soleil, c'est un peu ce rappel à la simplicité.
Un rappel à la simplicité, nous dit la jeune philosophe Emma Karenini dans son ouvrage Le Soleil. Ça, ça doit vous plaire et vous parler, Daniel Lincourt.
Vous pouviez pas avoir trouvé mieux. Je recherche. Je suis impressionné par toute cette relation. Il y a quelques années, en 73, on avait fait un grand congrès. Mes aînés, hein, ceux qui ont été dans le chemin avant, notamment Wolfgang Pals, ils ont organisé le congrès Le Soleil au service de l'humanité.
Et c'est
en 1973, qui a lancé la première fois qu'on disait faire du photovoltaïque sur Terre, parce que c'était fait uniquement dans l'espace. C'est vraiment... Et donc, c'est extraordinaire. Je suis très heureux.
Le soleil au service de l'humanité, tant mieux alors. Parce que vous nous rendez heureux avec cette réflexion sur le soleil, sur cette énergie du soleil qui implique, on n'a pas eu le temps de rentrer absolument dans les détails, mais qui implique des changements. C'est à nous de nous adapter à cette énergie solaire qui nous fait vivre et pas le contraire. Et puis, c'est aussi, alors même pour des patrons d'entreprise qui espèrent que ça aille encore plus vite et toujours plus vite, c'est vraiment, une industrie à développer. Du soleil.
C'est considérable. C'est l'industrie solaire aujourd'hui, le photovoltaïque, est l'industrie qui se développe le plus au niveau de l'énergie. Même l'Agence internationale de l'énergie parle du roi soleil.
Le roi soleil.
Il faut voir que l'année dernière ont été construits 143 gigawatts, vous voyez, des gigawatts de puissance installée de solaire. Et que dans quelques années, ça sera plusieurs centaines de gigawatts. Le solaire aujourd'hui représente environ 4% de l'électricité mondiale. Il n'y avait rien. En France, il est en train d'approcher, il est autour de 3%. En Allemagne, il est à 10%. Au Vietnam, il est à 16% d'électricité. Il n'y avait rien il y a quelques années. Donc vraiment, je pense qu'on peut réunir l'enjeu industriel, technologique, l'envie d'innover en technologie et aussi cette aspiration au soleil. Et vraiment, aujourd'hui, il y a la possibilité de faire des usines qu'on appelle des gigafabs. Il ne faut pas faire que des gigafabs sur les batteries, sur l'hydrogène. Il faut les faire, bien sûr, mais il faut penser à des gigafabs de photovoltaïque. Et aujourd'hui, il existe des usines, notamment en Europe, on commence, il y a beaucoup de gens qui poussent pour qu'il y ait vraiment un plan industriel parce qu'on peut installer une centrale solaire d'un gigawatt en quelques mois. On l'installe.
Il faut qu'il y ait ce plan industriel en Europe, il faut qu'il y ait ce plan
bien
industriel
sûr, bien
au
sûr,
sud,
bien
en Afrique,
sûr,
partout.
Bien sûr, partout.
Merci
partout.
Daniel Lincourt. J'invite nos auditeurs et internautes, alors évidemment à suivre votre leçon inaugurale et vos cours disponibles gratuitement et téléchargeables sur le Collège de France. Mais je vous invite aussi, chers amis auditeurs, si vous allez sur notre page Facebook de Tour de la Question, à découvrir la super vidéo, alors là carrément futuriste, que vous nous avez fait découvrir Daniel Lincourt. Ça se passe dans le désert, je ne vous en dis pas plus, comment l'énergie solaire mêlée au sable pourrait aussi, avec des cellules photovoltaïques, permettre de faire de l'imprimante 3D. On n'arrête pas le progrès.
De fabriquer du silicium,
comme dans une imprimante 3D. Daniel Lincourt, vous reviendrez nous en parler. Merci infiniment d'avoir
beaucoup.
Été en direct avec nous pour nous apporter du soleil.
Merci.
Autour de la question, en rediffusion estivale, sous le soleil exactement et jusqu'à la cime des arbres. Dans la canopée où nous vous donnerons rendez-vous demain, autour de la question pourquoi remonter sur le radeau des cimes, en compagnie des botanistes, explorateurs et architectes du radeau des cimes, 30 ans d'exploration des canopées forestières équatoriales à partager, histoire de reprendre un peu de hauteur. Avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, Caroline Achowski au micro pour vous servir. Merci de votre curiosité et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à notre podcast sur vos plateformes préférées ou sur l'application RFI Pure Radio. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure des informations. C'était